Ça, c'est le message. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, donne-nous une telle foi vivante. Dans cette conférence, nous devons avancer un peu plus vite. Hein? Parce que nous avons beaucoup de choses à lire et à mettre en pratique. Le fardeau est d'ouvrir la porte à tous les saints pour qu'ils puissent la mettre en pratique. Nous voulons entendre la parole du Seigneur lors de cette conférence, mais aussi et surtout la mettre en pratique. Nous pouvons commencer déjà maintenant. Et c'est un bon exercice pour nous tous. Amen. D'entendre la voix du Seigneur. Verset 14. Je me suis beaucoup réjoui de ce verset. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Que sert-il si nous avons tellement de connaissances et que nous ne la mettons pas en pratique? À quoi cela sert-il de savoir combien Dieu nous a pardonné? Mais si un frère fait même la plus petite chose, je ne peux même pas lui pardonner. À quoi est-ce que cela sert? Comme George nous l'a dit, ça ne sert à rien. Seigneur, à quoi est-ce que ça sert même de connaître beaucoup de choses au service, au sujet du Saint Sacerdoce, mais que je ne mets pas en pratique cette parole? Ça ne sert à rien. À quoi est-ce que ça sert d'entendre la conférence et que nous ne mettions pas en pratique? Nous pouvons même rester à la maison. Je peux même déclencher mon Zoom. Ça ne sert à rien. Nous croyons dans le Seigneur, mais s'il n'y a pas d'œuvre qui en découle, ça ne sert à rien. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Est-ce qu'une telle foi peut nous sauver, une foi sans les œuvres? Voyez au verset 20, il dit: « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. » Est-ce que tu peux dire cela, qu'une foi sans les œuvres est inutile? Et ensuite le verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comment seras-tu justifié? Si tu amènes quelqu'un à l'évangile, tu as le fardeau qu'il soit sauvé. Tu lui dis: mais comment seras-tu sauvé? Par la foi. Tu dois dire aussi: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce n'est pas la parole que j'adresse au nouveau. Lisons Éphésiens 2, à partir du verset 8. Que dit Paul à ce sujet? Éphésiens 2, 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Verset 9. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Qui a raison? Qui a raison? Paul ou Jacques? Jacques nous dit: c'est pas uniquement par la foi, mais par les œuvres. Paul dit: ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons une contradiction ici dans la Bible. Qu'est-ce qui est juste? Toutes les deux choses sont justes. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de naître de nouveau, lorsqu'un homme n'a pas encore reçu le Seigneur, alors le salut seul par la grâce et par la foi valable. Mais Jacques ne nous parle pas de la nouvelle naissance, mais il nous parle de l'accomplissement, du fait qu'un chrétien parvienne à maturité. Nous ne devons pas croire que tout est en ordre après le fait que nous soyons nés de nouveau et nous n'avons plus qu'à attendre pour arriver dans le ciel et tout est liquidé. Si nous avons une telle pensée, alors Jacques va nous dire, la foi sans les œuvres est morte. Pour l'entrée dans le royaume, nous avons besoin des œuvres. Et ces œuvres doivent être suscitées par la foi. S'il n'y a pas d'œuvres, alors notre foi est vaine. C'est vraiment une parole très forte. Jacques va nous dire, mais quelle est la différence avec les démons? Les démons croient aussi en Dieu. Ils tremblent même. Certaines personnes ne tremblent même pas devant l'existence de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Les démons n'ont pas d'œuvre. Mais ils ont la foi. Mais ça ne sert à rien. C'est sans effet. C'est pourquoi nous devons voir. Jacques nous parle de l'accomplissement. Il ne parle pas du salut initial. Il nous dit même que nous devons être sauvés jusqu'à la perfection. Jacques nous dit que nous devons être sauvés de la distinction que nous faisons entre les personnes. Est-ce que nous pouvons nous pardonner les uns les autres? Est-ce que nous pouvons être guéris de notre manque de miséricorde à l'égard des frères et sœurs? C'est de ces choses-là que nous devons être guéris. C'est pour cela que nous avons besoin des œuvres, sans quoi il n'y a pas de salut qui est possible. La parole de Jacques est si pratique. Il nous donne trois merveilleux exemples dans ce passage que nous avons lu. Le premier, ce pauvre frère, cette pauvre sœur qui n'a pas de vêtements ni de nourriture, ce frère ou cette sœur. Cet exemple nous montre notre vie personnelle de chrétien. C'est si basique d'avoir une telle attitude. Si parmi les frères et sœurs, il y a de tels besoins, nous ne devons pas ignorer ce besoin. Il est normal et cela appartient à notre vie chrétienne. Je crois, si nous sommes vraiment nés de nouveau et que l'Esprit habite en nous et que nous sommes dans l'Église ici, comment ne pouvons-nous pas avoir pitié les uns des autres? Il est impossible, si nous voyons quelqu'un qui est dans un besoin, est-ce que quelqu'un fait cela, d'ignorer les besoins des uns des autres? Ces derniers temps, il y a beaucoup qui étaient malades parmi nous. Je parle presque tous. Et c'était si merveilleux de voir à quel point les saints avaient un cœur de venir, de cuisiner, de faire ceci, cela, apporter de la nourriture à tel et tel. Nous-mêmes, nous étions malades. Nous ne pouvions pas nous lever. Nous étions simplement là à attendre. Et tout à coup, il y a tout à coup un pot, une casserole sur la terrasse. Et puis il y avait un saladier dans la cuisine et dans le réfrigérateur, il y avait aussi quelque chose. Frères et sœurs ont un tel cœur de porter les besoins des uns des autres. Dernièrement, une sœur a dit, je ne peux pas me lever, mais j'ai rien à manger. Est-ce que vous pouvez m'apporter quelque chose? Il n'y a personne qui a dit, ouais, je vais prier pour toi pour que le Seigneur pourvoie. Est-ce que nous faisons quelque chose comme ça? Non. Quiconque a un sentiment pour le Seigneur va tout de suite se lever, prendre la voiture et apporter quelque chose à cette sœur. C'est normal. Le Seigneur a œuvré ces choses en nous. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, et pas parler ici de la foi, mais de votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et comment est-ce que cet amour pour ce nom s'exprime, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est si merveilleux que l'amour du Seigneur est manifesté dans le fait que nous servons les frères et sœurs. Spécialement quand il y a un besoin matériel, un besoin extérieur. C'est très bien d'apprendre à couvrir ce besoin de manière immédiate. Ces derniers mois, nous avons vraiment été soumis à quelques opportunités de servir les frères et sœurs. Nous avons entendu parler de besoins chez les frères et sœurs. Et je peux vraiment témoigner que sans hésiter, nous avons répondu à ces besoins. Le Seigneur nous a donné un fardeau. Souvent, nous avons pensé à ce verset. Est-ce que vous voulez être aimé de Dieu? Alors, ne faites pas ces actions en grinçant des dents. Et ça appartient, c'est normal dans notre vie chrétienne. Ce sont des choses basiques. Ça fait partie de notre être, mais ce n'est pas tout. Jacques ne reste pas sur ces choses extérieures. Au verset 21, l'exemple numéro 2 est Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'est le deuxième exemple que donne Jacques. Ça, c'est plus basique. Ça, c'est l'accomplissement. Ça, c'est le fait de parvenir à maturité. Il est relativement simple, lorsque nous identifions un besoin chez quelqu'un, de couvrir ce besoin. C'est si simple, parce que c'est basique et c'est normal. Mais, livrer ton fils unique sur l'autel, Isaac, est-ce que c'est si simple? Je vous lis le passage dans Genèse 22, à partir du verset 1. Nous voyons après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, celui que tu aimes. Quel ajout ici. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je suis toujours étonné de ce passage, de cet ajout, celui que tu aimes. Bien sûr qu'il l'aime. Parce qu'en fait, Dieu n'aurait pas eu besoin de dire cela. Mais il ajoute cela, celui que tu aimes. Pourquoi? Il en va du fait de parvenir à maturité. Ce n'est pas si simple de déposer quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas si simple. C'est simple d'aller chez la sœur, d'acheter quelques bretzels et d'apporter à notre sœur ces bretzels. Je le fais par amour pour le Seigneur et pour cette sœur. Mais déposer quelque chose que j'aime, mon Isaac, ce n'est pas si simple. Chacun d'entre nous a un Isaac. Je ne sais pas quel est ton Isaac à toi, mais chacun a un Isaac. Quelque chose qui lui tient tellement à cœur, auquel il s'accroche. C'est impossible d'y renoncer, presque impossible. C'est comme chez le jeune homme riche dans Matthieu 19. Le jeune homme riche lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie? Tiens les commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point, etc. Alors le jeune homme dit, j'ai respecté toutes ces choses. Pas mal. Qu'est-ce qui me manque encore? Peut-être que tu as une représentation, tu te dis, tu as fait tellement de choses pour le Seigneur. Alors, le Seigneur lui dit, verset 21, si tu veux être parfait, va. Il ne s'agit pas ici du salut initial, mais il en va ici, du fait que Dieu veut nous faire parvenir à maturité. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'était son Isaac à lui. C'était si simple de renoncer à son Isaac après avoir entendu ses paroles. Le jeune homme riche se réjouit et puis il a abandonné, il a tout vendu. Il s'en alla tout triste en fait, car il avait de grands biens. C'est relativement simple de faire quelque chose d'extérieur pour le Seigneur. Mais à un moment donné, le Seigneur va nous demander ce à quoi nous tenons le plus. Le Seigneur ne va pas exiger de toi tes déchets. Donne-moi tes déchets. Mais il va te demander ce qui te tient le plus à cœur. Parfois, notre moi est si précieux, notre vie de l'âme. Je peux vous approvisionner tous en bretzel, mais laissez mon moi de côté est si difficile à déposer. Même si l'Église devait couler, je vais tenir ferme à mon moi. Je ne peux pas demander pardon, je ne peux pas m'humilier. Je ne peux pas dire je suis désolé, je ne peux pas te pardonner. Pourquoi? Parce que mon moi, je l'aime tellement. Ma propre justice, je ne peux pas la déposer de côté. Le fait d'avoir raison, c'est impossible. Tu peux me demander quoi que ce soit, mais le fait que j'ai raison, ça, tu ne peux pas me l'enlever. C'est impossible. Si je suis comme ça, cela prouve que je ne suis pas encore parvenu à maturité. Je dois encore m'exercer. Je dois passer au travers de beaucoup d'autres petits tests pour parvenir à maturité. Oh Seigneur Jésus. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ce n'est pas l'inverse. Je te donne volontiers tout ce qui est une perte pour moi afin de te gagner. Non, ce n'est pas écrit comme ça. Ce point de la maturité, c'est toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, ce que j'aimais, tout ce à quoi mon cœur est attaché, Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à ces choses? Ou est-ce que notre cœur est tellement attaché que nous voulons les garder pour nous? Paul était prêt. Il a dit, à cause de Christ, je les ai regardés comme une perte. Comme une perte. Quel homme d'affaires fait cela, Manu? De la perte comme gain? C'est pas quelque chose de raisonnable. Il n'y a aucun homme raisonnable qui fait cela. Mais dans notre foi, il en va ainsi. Apprenons de l'exemple d'Abraham. L'encouragement, c'est que Abraham n'est pas arrivé du jour au lendemain à ce point. Abraham ne lui a pas donné cette épreuve dès le début. Juste après le salut, il n'y a pas dit « Viens, apporte-moi ton fils », mais par de petites étapes, point par point, le Seigneur lui a donné des situations pour arriver à ce point où il est capable de lâcher Isaac. Et nous sommes sur ce chemin aussi aujourd'hui. Lorsque vous voyez Abraham au début, il était à Ur en Chaldée. C'était vraiment un endroit d'adoration d'idole. C'était à Babylone. Il était à cet endroit. Il était certainement un serviteur de ses idoles, comme ses parents. Et c'est de ce pays qu'il a été appelé. Il est sorti tout de suite. Louez le Seigneur. Sortons d'Ur en Chaldée. Non. Son père était là. Heureusement, Terah était là. Il a dit, viens, sortons. Il l'a emmené jusqu'à Charan. Nous avons besoin de cela. Ça, c'est pas une foi avec les œuvres, mais c'est une foi avec aide. Ne soyons pas fâchés si quelqu'un vient et nous prend par la main et puis nous dit, allez, viens, sors de ce pays, de cet environnement qui est néfaste pour toi. Qu'est-ce que tu as à me dire, quoi? Ne dis pas cela. Tu peux y aller tout seul, Terah. Non. Il est allé avec lui, peut-être à contre-cœur, mais il y est allé. Souvent, nous sommes ainsi. Nous avons besoin d'aide. Et le Seigneur utilise même cela. Quand ils étaient à Charan, le Dieu de gloire lui est apparu une nouvelle fois. Et lui a dit la même chose. Sors de ton pays et de ton environnement qui est connu dans un pays que je te montrerai. Enfin, Abraham a appris la leçon. Nous pouvons penser cela. Est-ce qu'il est sorti tout de suite, la deuxième fois? Oui, il est sorti, mais pas tout de suite. Il était lent. Dieu a appelé, mais n'est pas venu. Dieu a dû attendre jusqu'au décès de son père. Et quand Terah est décédé, alors Abraham a obéi. Celui qui l'avait sorti de Charan, eh bien, il voulait plus non plus sortir. C'est aussi notre expérience. Souvent, chez nous, Dieu doit attendre jusqu'à ce que nous soyons suffisamment mûrs pour obéir. Souvent, nous nous disons, pourquoi est-ce que les signes des temps arrivent si lentement? Souvent, nous attendons des signes clairs pour que le Seigneur revienne. Et souvent, ça nous semble long. Et jusqu'au prochain signe, tu te dis, oh là là, je dois encore attendre. Lorsque j'ai lu cette histoire, cela est devenu clair pour moi. Pourquoi ça dure autant de temps? C'est parce que nous sommes si lents. Comme Abraham, il dit, oh, mais c'est pas mal ici, louer le Seigneur. Alléluia. Alors Dieu doit attendre, 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 jusqu'à ce que son père décède. Louer le Seigneur. Amen. Et tout à coup, ce point est arrivé où Dieu lui a demandé cette épreuve. Mais parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de petites expériences précédemment, alors il a pu passer ce test de la grande épreuve. Est-ce que ce n'est pas une bonne perspective pour nous? N'oublions pas que Abraham est notre père de la foi. Amen. C'est si merveilleux. Oh Seigneur Jésus, et dans le dernier exemple que Jacques nous donne, nous n'attendions peut-être pas ce dernier exemple. Nous avons les bases de la foi. Nous avons Abraham qui allait jusqu'à maturité. Et puis le troisième exemple, je pense que moi-même je l'aurais laissé de côté, mais loué le Seigneur, Jacques ne l'a pas laissé de côté. Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Dieu a évoqué un troisième exemple au travers d'Arabe. Pour Abraham, il allait de sa sortir du pays. Pour Rahab, il en va d'entrée. Souvent, il y en a beaucoup qui, autrefois, il y a beaucoup qui sont sortis d'Égypte parmi le peuple d'Israël. Mais il y en a très peu qui sont entrés dans le bon pays. Et cela doit aussi être un avertissement pour nous. Nous ne devons pas juste sortir, mais aussi entrer, aller jusqu'au but, comme Rahab. Rahab n'avait pas un passé très glorieux. Elle était prostituée. Tous ceux de la ville la connaissaient. Mais sur la base de ses œuvres, Dieu a oublié tout son passé. Sa foi et ses œuvres combinées ont effacé son passé. N'est-ce pas merveilleux? On ne voulait pas avoir de telles œuvres. Comme George l'a dit, que Dieu déchire votre liste, vous purifie de votre passé. Louez le Seigneur. En ce temps, lorsque Rahab a habité à Jéricho, toute la ville savait que les Israélites allaient entrer pour conquérir la ville. Rahab a raconté cela aux espions. Nous avons peur de vous. La ville entière tremblait devant Israël, mais ils n'ont rien fait. Rahab tremblait aussi, mais elle a fait quelque chose. C'est la différence. Souvent, le Seigneur nous dit quelque chose. Cela nous saisit intérieurement et nous avons la crainte de Dieu. Mais est-ce que nous agissons en conséquence? Est-ce que nous modifions quelque chose dans nos comportements? Si nous ne le faisons pas, nous sommes comme le reste de Jéricho. Ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas d'œuvre. Ces œuvres que Rahab a pratiquées sont étroitement liées avec le plan de Dieu. Ce ne sont pas juste des œuvres en elles-mêmes pour son propre salut. En fin de compte, Rahab est une ancêtre du Seigneur. Elle est dans la généalogie de Jésus. De cette manière, Dieu a sauvé cette prostituée et a fait d'elle une branche de sa généalogie de Jésus-Christ. La foi sans les œuvres est morte. Si nous avons les œuvres de cette foi, alors nous correspondons au plan de Dieu. Louons le Seigneur. Amen.